Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, que vous soyez sur le 91, sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien le 103.1 Radio Alliance Plus pour l'agglomération nîmoise et au-delà, www.fmplus.org pour vous accompagner ou bien encore vous pouvez aussi acquérir gratuitement l'application qui vous permet à partir de votre smartphone de nous entendre, que ce soit un iPhone ou bien un Android. Toujours à l'écoute de Les Mots pour le dire, toujours en compagnie de Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Des mots pour le dire, Les méandres de l'amour, Eros et Agapé, livre que Michel Théron a écrit et qui est paru aux éditions Dervy et qui nous permettent de semaine en semaine de suivre ces méandres de l'amour tranquillement, paisiblement, découvrir à la fois parfois les pics, les profondeurs, les platitudes aussi, et avec Michel comme guide, je vous assure que ça en vaut la peine. Et avant de démarrer, comme toujours, j'aime bien quelques citations qui nous font aussi voyager sur la thématique de l'amour. Trois proverbes, un proverbe italien qui dit « L'amour fait passer le temps fait passer l'amour ». Et ensuite, un proverbe africain « Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit ». Et enfin, pour terminer de manière un peu plus piquante, un proverbe finnois qui dit « L'amour est un jardin fleuri et le mariage un champ d'ortie ». Eh bien, dis donc, on peut penser de certaines choses à la fois du sud, du nord, mais notre approche sur ces sentiments d'amour sont très différents, Michel.
Absolument. Alors, nous avons vu lors de la dernière émission le danger qu'il y a dans les projections. Une projection, c'est le fait d'imaginer quelque chose à propos de quelqu'un dont nous disons que nous l'aimons, si vous voulez. Hein. Mais ces rêves que nous nous faisons de l'autre sont sans doute inévitables. Ils sont aussi très séduisants. Mais le problème est-ce qu'ils permettent de fonder une relation durable et solide ? L'amour fait passer le temps fait passer l'amour. Votre premier proverbe italien, Redouane, est un proverbe désenchanté, vous voyez. Alors, ces projections que nous nous faisons sur l'autre, hein, c'est avant justement le mariage, par exemple, hein, bon, sont dangereuses parce que, à l'épreuve du temps, eh bien, elles vont s'effondrer. Alors, cette question des projections est fondamentale. Et je peux, sans sortir de mon sujet, élargir considérablement la question. En effet, toutes les sagesses et toutes les spiritualités du monde nous mettent en garde contre les projections et nous invitent au contraire à voir objectivement devant nous simplement ce qui est. Voilà, non pas ce que nous imaginons, mais ce qui est. Alors d'habitude, nous suivons rêveusement et passivement nos pensées, comme si c'était des singes qui se balançaient dans les branches d'un arbre. Et nous ne nous centrons pas et nous ne nous concentrons pas sur le seul réel présent constatable, sur le seul hic et nunc, comme on dit en latin, c'est-à-dire ici et maintenant. Les projections sont du domaine de l'imaginaire et de ce qu'on appelle en spiritualité le mental. Et le salut vient, nous disent les sages de toutes les traditions, précisément de la destruction de ce mental, de toutes les supputations, de toutes les hypothèses, des nœuds et des crampes dont il est la cause et qui asservissent et paralysent notre âme, notre psyché. On se dit « je pense qu'il pense que je pense », etc. Vous voyez, on projette hein, relativement au partenaire dans l'amour. Il y a un livre d'un psychiatre, Ronald Lang, qui s'appelle « Nœud hein, », qui se trouve en traduction française, qui est paru chez Stock à Paris en 1970. Vous voyez ? Donc, nous imaginons, nous supputons, nous faisons des hypothèses sur la pensée de l'autre, et cela n'est pas une bonne chose, car à force de suppositions sur les choses et les êtres, nous fuyons la réalité. Et très souvent, nous nous mettons nous-mêmes à la torture. Nous sommes nos propres bourreaux. À partir d'une expression grecque, hein, nous sommes « eoton timoroumenoi », hein, bourreaux de nous-mêmes. Hein. Et c'est pourquoi tous les sages dans toutes les traditions nous disent « si ton mental vit, tu meurs ». Et au contraire, si ton mental meurt, tu vis. C'est-à-dire, si ton imaginaire l'emporte, eh bien, spirituellement, tu seras mort. Il faut donc détruire cet imaginaire par ce que l'on appelle aujourd'hui des exercices de pleine conscience. Vous savez, aujourd'hui, c'est la mode dans ce qu'on appelle le développement personnel de développer l'idée de la méditation, hein. La méditation, c'est un exercice de pleine conscience. Se concentrer sur sa respiration, effectivement, c'est quelque chose qui existe, hein, ici et maintenant. Tandis que s'imaginer, hein, peut nous promettre des lendemains qui déchantent. Alors, ce qui est vrai du salut spirituel, l'est aussi de la bonne santé psychologique et relationnelle. Par exemple, dans certains couples, quand il n'y a pas de vrai dialogue, il arrive que chacun se contente de supputer mentalement et isolément ce qu'éprouve l'autre. Donc, je crois qu'il croit que, etc. Hein. Et alors, par exemple, si l'un des deux membres du couple est inhibé par la peur, par exemple, de que la relation s'achève, hein, et si cette personne fait part à l'autre des doutes qu'elle éprouve sur la durée de la relation, alors l'autre risquera de la croire, même s'il pensait à cet instant exactement le contraire. Parce que vous savez très bien, Redouane, que la peur est contagieuse. La peur dévore l'âme. C'est le titre d'une pièce de Fassbinder, de l'auteur allemand Fassbinder. Hein. Voilà. Alors, tout ceci me semble pouvoir acquérir l'adhésion de tout le monde. Mais c'est très difficile à mettre en pratique, cette position. Elle n'est pas toujours possible à tenir. Et dans toutes les relations que nous nouons avec les autres, il est très difficile de ne pas projeter. Alors cela va des choses les plus anodines aux choses les plus catastrophiques. Par exemple, certaines mères disent à leur enfant « Mets ton pull, j'ai froid ». Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elles projettent leur sensation de froid sur l'enfant. Hein. Ce n'est pas une bonne chose. Hein. Ces mères sont possessives et elles vampirisent leurs enfants. Bon, nous avons eu des enfants, vous et moi, Redouane, nous avons des enfants. Eh bien, il faudrait ne pas projeter, l'enfant n'a pas froid, forcément. Hein. Bon, ne pas imaginer l'autre comme nous-mêmes. Khalil Gibran dit très bien dans Le Prophète, un livre essentiel que j'engage les auditeurs à lire, hein, « Vos enfants ne sont pas vos enfants », voyez. Il y a ce que l'on appelle en rhétorique une antanaclase, c'est-à-dire le miroitement de sens sur le possessif. Vos enfants ordinaires, ne sont pas vos enfants. Le deuxième « vos » n'a pas le même sens. Hein. Il prend une valeur différente à la seconde occurrence. Hein. Ça veut dire ne sont pas votre propriété. Si nos enfants naissent de nous, ils ne sont pas nous. Ils ne nous appartiennent pas. Je ne sais pas si vous avez vu, Redouane, le film de Ken Loach qui s'appelle « Family Life ». Vous l'avez vu,
oui,
je vous vois qui
c'est. Oui, oui.
Voilà, donc j'aime bien faire référence à des films, des œuvres littéraires, poétiques, des chansons, etc. Hein, voilà. Alors dans Family Life, la mère possessive dit à sa fille « Tu n'es qu'une partie de moi ». Voilà. Alors il n'est point étonnant que la folie, en l'occurrence la schizophrénie, habite la jeune fille, hein, puisque elle n'a pas d'indépendance, elle est considérée comme une chose, elle est réifiée, chosifiée, en quelque sorte, tu n'es qu'une partie de moi. La chair de ma chair, comme on disait, hein, dans la pièce de Feydeau, que la chair de ma chair voit ma chair, quel mal y a-t-il? Je crois que c'est dans « Mais ne te promène pas toute nue », vous voyez, hein. Donc, cette expression est bizarre, la chair de ma chair, parce que l'autre a quand même une personnalité, hein. Alors, est-ce que c'est peut-être plus vrai des mères que des pères, non, Redouane, peut-être, encore qu'il y a des...
Bonne question.
Ouais. Il y a des pères qui écrasent aussi leurs enfants sous l'immensité de leurs projections, hein, des projections catastrophiques.
Oui, parce qu'on a toujours envie que les enfants ou nos enfants suivent telle ou telle trace.
Voilà.
Et parfois, comme vous dites, effectivement par projection, dans le sens nous n'avons pas pu réussir ou vivre
tel aspect.
Et du coup, ça me rappelle aussi, moi j'avais des amis qui avaient offert un superbe circuit excalectrique pour les petites voitures de course. En fait, elle s'est fait plus plaisir, lui,
absolument.
que son gamin qui aurait préféré un jeu vidéo plutôt que...
Absolument, que absolument. Je pense à la pièce d'Arthur Miller qui s'appelle « Mort d'un commis voyageur », hein, qui a été portée au cinéma. Je crois, Dustin Hoffman qui joue ce vieux monsieur. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est saigné aux quatre veines pour faire vivre sa famille. Il a deux garçons et il a tout investi sur son fils cadet. Et il a placé tous ses espoirs en lui. Hein. Et bien, cela cause finalement son échec. Car ce personnage ne veut pas voir son fils tel qu'il est, c'est-à-dire un être ordinaire. Et à la fin de la pièce, son fils le lui représente. Il lui dit « Mais je suis un être ordinaire, je suis écrasé en quelque sorte par l'attente que tu mets en moi. » En sorte que peut-être les enfants qui se débrouillent le mieux dans la vie, vous voyez Redouane, sont peut-être ceux sur lesquels les parents ne surinvestissent pas. Je dirais pas ceux dont les parents se désintéressent, peut-être pas, mais encore que je dirais que ce surinvestissement, finalement...
Et on leur met pas la pression.
Voilà, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Donc, pour revenir à notre problème des projections, je dirais que Eros, dans cette façon de le vivre au moins, hein, c'est-à-dire s'alimentant à l'imaginaire et aux projections, peut mener... à la mythomanie, à ce que Jules de Gaultier appelait à partir du roman de Flaubert le bovarisme. Vous savez que Emma Bovary, à force de lire des romans de chevalerie, elle s'imagine que ces romans sont le réel. Le bovarisme, c'est le fait de remplacer, comme Emma chez Flaubert, la réalité décevante par des rêves embellissants. C'est une sorte de folie aveuglante. Et bien avant Madame Bovary, il y a eu le fameux roman de Cervantes, Don Quichotte. Don Quichotte rêve à Dulcinée, la femme de son imaginaire. Hein. Et même lorsque il la voit dans un épisode du roman de Cervantes tel qu'elle est, c'est-à-dire une souillon, hein, eh bien il refuse de la voir ainsi. Son valet Sancho lui dit « Mais voyez-la telle qu'elle est, elle sent mauvais, elle est mal habillée. » Mais Don Quichotte dit à Sancho « En fait, elle a été enchantée, c'est-à-dire elle a subi un maléfice. Elle est, ce n'est pas la vraie Dulcinée. » Alors, comme dans le cas du héros de Cervantes, dans le cas d'Emma Bovary, l'erreur, c'est de se laisser influencer par la fréquentation de certaines œuvres ou de certaines lectures que l'on va projeter dans la vie elle-même. Parce qu'il y a des œuvres, certes, formatrices et instituantes, mais il y a d'autres œuvres qui sont aliénantes ou bien qui sont devenues aliénantes. Ces romans de chevalerie auxquels croit le héros de Cervantes alors que le temps en est passé, hein, les récits romanesques ou kitsch auxquels Emma Bovary accorde son crédit, sont très, dangereux. Et notez que les filles d'Emma, ce que j'appelle les filles d'Emma, sont en grand nombre. Par exemple, Jeanne dans Une vie de Maupassant, hein, ou bien Thérèse d'Esquerou dans le roman de Mauriac, etc. Toutes ces femmes-là nous donnent l'impression d'être d'ailleurs. Hein. J'ai parlé lors de la dernière émission de l'allogénie, être d'ailleurs. Hein. Et ces femmes veulent toujours être ailleurs. Je pourrais aussi évoquer, dans la même lignée, le cas des trois sœurs de Tchekhov qui rêvent toujours d'aller à Moscou, mais qui n'iront jamais à Moscou, vous voyez. Et il y a même une Madame Bovary adolescente qui a été incarnée par Charlotte Gainsbourg dans le film de Claude Miller, L'effronté. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Redouane, peut-être. Hein,
oui,
voyez.
Oui.
Voilà. Donc, remplacer le monde réel par des rêves et, d'une certaine façon, fuir le monde réel. C'est ce que nous allons voir en écoutant la belle chanson de Pierre Perret. Le bonheur, c'est toujours pour demain.
Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Où sont mes amis qui seront fidèles et ces pays pleins d'odeurs de cannelle? Et toi, mon bel amour, ma tristesse nouvelle, as-tu un cœur de fer sous ton corsage de velours? Y a-t-il quelque part un ruisseau d'eau pure? N'existe-t-il pas cet amour qui dure? Le bonheur est-il bref, comme un orage en ciel d'été? Celui qui sait tout ça est homme plus heureux que moi. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Brûlant sont les mots sortis de tes lèvres, l'eau de tes baisers m'a donné la fièvre. Si un autre que moi dort dans ta chevelure, mes doigts seront serpents, couteaux seront mes dents. Et quand tu t'endors, ingénue divine, la bouche meurtrie contre ma poitrine, ne faut-il pas partir avant d'encore une fois mourir? Celui qui sait tout ça est homme plus heureux que moi. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose.
Je pense que vous aurez reconnu la voix de Pierre Perret. Fillette, le bonheur, c'est toujours pour demain.
Voilà, alors je pense que cette chanson mélancolique, qui est très belle, dont la mélodie nous enchante, exprime une idée qui est très profonde, qui était exprimée aussi dans une chanson que j'ai passée lors d'une précédente émission, hein, « Fuir le bonheur avant qu'il se sauve hein, », de Jane Birkin. Donc, ce que je retiens de cette chanson, par exemple, c'est un vers comme « Ne faut-il pas partir avant d'encore une fois mourir hein? ?» s'enfuir loin de ce monde décevant. Et je ne veux pas jeter la pierre à ces êtres que la vie triviale et prosaïque n'a pas satisfaits. Fuir le réel, hein, dans ses rêves, bien sûr, c'est un obstacle au contact avec les autres dont on ne voit pas ce qu'ils sont réellement. Mais cela étant, entre d'un côté Madame Bovary qui est déçue par ses deux amants et qui meurt de cette désillusion, et de l'autre côté Monsieur Homais qui est un parangon de bêtises satisfaites, hein, qui triomphe à la fin du roman de Flaubert, il vient de recevoir la croix d'honneur, il fait une clientèle d'enfer, c'est le pharmacien, hein, et il vient de recevoir la croix d'honneur, je ne sais trop qui a le meilleur partage, ou plutôt, je me doute bien qui je préférerais être, hein. Peut-être ce qui n'a pas de sens, c'est-à-dire le rêve de Madame Bovary, a plus de sens que ce qui a du sens. Ce qui a du sens, c'est la vision positive, réaliste, anticléricale de Monsieur Homais, par exemple. Hein. Bon, mais finalement, on voit aussi dans tous les films de Chabrol, hein, comment en province il peut y avoir justement ces êtres plats, mesquins, de petits calculs, etc. Et donc, voyez, alors d'un côté, il y a la folie peut-être d'Emma Bovary, hein, mais d'un autre côté, et ce qui triomphe, c'est le prosaïsme. Alors, voyez, Redon, dans ce livre, j'ai pris le parti de ne rien condamner radicalement, car la réalité n'est jamais en blanc ou noir. Hein. Je dirais même que la folie, parfois, est vitale. Vous savez que Erasme, un humaniste hein, du XVIe siècle, a fait l'éloge de la folie, Encomium Moriae, l'éloge de la folie, vous voyez hein. Et plus près de nous, alors, de façon contemporaine, Laborit a écrit Un éloge de la fuite. Le titre est paradoxal, mais bien instructif. Hein. Individuellement parlant, je dirais que devant la prose du monde qui nous désenchante, hein, on peut vouloir se sauver. Alors, se sauver, non pas au sens d'opérer son salut, comme le dirait l'apôtre Paul, par exemple, hein, mais au sens de s'enfuir. Je me sauve, voyez. Fuir le bonheur avant qu'il se sauve, ou bien ne faut-il pas partir avant d'encore une fois mourir, voyez. Hein. S'enfuir. Et Laborit, qui est un biologiste, dit la chose suivante. Il nous dit, un fou, au moins, ne développe pas de cancer. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas médecin, mais enfin, ça me fait beaucoup réfléchir, cette idée, hein, que, bon, l'évasion dans l'imaginaire peut parfois être préférable au fait de se morfondre de façon morose. Hein. Mais alors là, je parlais d'allogénie, c'est-à-dire ce que la gnose a toujours développé, hein, comme modèle, hein, être d'ailleurs et s'enfuir. Regardez par exemple dans l'évangile selon Jean, la trace gnostique de ce thème, vous avez des tribulations dans le monde, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, vous voyez. Donc la gnose est de tout temps et de tout lieu, s'enfuir loin du monde. Alors c'est vrai qu'il y a la finitude de l'existence. À la fin de mon livre, et je le réserve pour une émission suivante, hein, je parlerai de l'humour comme solution possible à ce problème. Hein, mais le problème, il est là, c'est l'opposition entre les projections poétiques sur la vie et sa platitude définitive. Voyez ce que dit Lamartine dans ses méditations poétiques. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux, vous voyez. Donc, comment faire pour choisir? En fait, je crois que mon livre, c'est pas pour rien que je l'ai appelé « Méandre de l'amour », montre bien justement qu'il y a différentes modalités de vivre ce sentiment très diverses et qu'il ne faut jeter la pierre sur aucune. Alors, ce qui est sûr, c'est que Eros, hein, le désir, avec ses aspirations constantes et ses projections vers l'infini, va problématiser, a priori, la relation avec l'autre. Parce que l'autre va résister aux projections. L'autre n'est pas, je dirais, comestible. Nous ne pouvons pas le manger. Hein. L'autre n'est pas comestible. Et il n'est malheureusement pas toujours disponible et soumis à notre attente. En effet, à l'inverse de ce qu'on pense souvent naïvement, il n'y a pas d'harmonie préétablie entre les êtres. Par exemple, Marcel Proust nous dit que quand il était enfant, lorsqu'il s'élançait vers ses parents pour en obtenir un geste d'amour, c'était justement à ce moment-là que ses parents choisissaient pour lui reprocher une peccadille qu'il avait, lui, depuis bien longtemps oubliée. Il choisissait cet instant pour lui faire des reproches. Et chacun dans sa vie a pu faire la même expérience. Hein. Peut-être que les êtres sont les uns pour les autres comme des monades leibniziennes. Monade vient du grec monos tout seul. Ces monades fermées sur elles-mêmes ou aussi éloignées les uns des autres que les étoiles dans le ciel. Peut-être que ça nous est arrivé dans notre vie d'enfant d'abord et de parents ensuite, hein, cette idée que de cette espèce de loi d'attraction-répulsion. Nous prenons une bonne résolution quand nous sommes enfants, et puis les parents choisissent ce moment pour nous faire un reproche, vous voyez, Redouane. Donc je vous vois hocher la tête encore.
Même dans les couples, c'est comme ça. Hein.
Ah oui, 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 même dans les couples, bien sûr.
Quand il y a le malaise, quand il y a, disons, l'équilibre de la balance n'est pas là, c'est une manière de beauté en touche, comme on dit. Tu dis, mais tu me dis plus que tu m'aimes. Je dis, mais je te le dis à ma manière.
Oui,
c'est des formules qu'on entend et qui est une manière, en fait, c'est l'évitement.
Oui, oui, qui est un mensonge. Évitement et évitement. Hein, c'est-à-dire, on s'empresse de mentir. Oui, oui, vous avez raison. C'est très bizarre, ça, cette loi d'attraction-répulsion. On va vers quelqu'un et puis l'autre se replie, vous voyez. C'est un peu comme les porcs épics dont parle Schopenhauer. Hein. Lorsqu'ils sont séparés, ils ont froid. Et puis ils se rapprochent pour se tenir chaud. Mais aussitôt, ils se piquent. Ils se piquent. Hein. Donc de nouveau, ils se séparent, vous voyez. Hein. Donc c'est une solution. C'est une image, plus précisément, sans solution.
Mmh. C'était mon grand-père qui me disait « L'amour, c'est comme une voiture. Les pneus ne s'usent pas toujours de la même manière. »
Ah oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que la question de l'usure du temps, comme le disait le proverbe, est-ce le temps qui use ou est-ce que c'est l'amour qui s'use et comment est-ce qu'on veille à combattre l'usure
C'est un thème tragique, cette usure, hein. Parce que quand l'amour est fondé sur l'aveuglement, sur l'ignorance de ce qu'est véritablement le partenaire, il n'est pas étonnant qu'il puisse disparaître aussi vite qu'il est apparu, puisque alors la réalité est affrontée et objectivement perçue, et alors apparaissent ce que Proust appelait les intermittences du cœur, vous voyez. C'est-à-dire que l'amour vient en nous, il nous visite, et puis il nous échappe, il nous quitte, vous voyez. La Rochefoucauld disait « Lorsque les passions nous quittent, nous nous flattons de la croyance que c'est nous qui les quittons. » Mais pour certains, et alors là je pense qu'on touche à quelque chose d'extrêmement problématique, la fin de l'amour est pire que son déroulement même. Elle nous donne une catastrophique impression de néant. Alors pour illustrer ce thème, j'ai choisi une chanson de Brassens, le 22 septembre, que nous allons écouter.
Un 22 septembre, au diable vous partîtes, et depuis chaque année, à la date susdite, remouillez mon mouchoir, en souvenir de vous. Or nous y revoilà, mais je reste de pierre. Plus une seule larme à me mettre aux paupières. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Jadis ouvrant mes bras comme une paire d'ailes, je montais jusqu'au ciel pour suivre l'hirondelle et me romper les os en souvenir de vous. Le complexe d'Icare à présent m'abandonne. L'hirondelle en partant ne fera plus l'automne. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. On ne reverra plus autant des feuilles mortes. Cette âme en peine qui me ressemble et qui porte le deuil de chaque feuille en souvenir de vous. Que le brave Prévert et ses escargots veuillent bien se passer de moi pour enterrer les feuilles. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Pieusement noué d'un bout de vos dentelles, j'avais sur ma fenêtre un bouquet d'immortelles que j'arrosais de pleurs en souvenir de vous. Je m'en vais les offrir au premier mort qui passe. Les regrets éternels à présent me dépassent. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Désormais, le petit bout de cœur qui me reste ne traversera plus l'équinoxe funeste en battant la breloque en souvenir de vous. Il a craché sa flamme et ses cendres s'éteignent. À peine y pourrait-on rôtir quatre châtaignes. Le 22 septembre, aujourd'hui je m'en fous. Et c'est triste de n'être plus triste sans vous.